Bonjour, c'est Portrait, une émission proposée et animée par Claire-Lise Chaubelet.
Chances are, 'cause I wear a silly grin.
Il ne s'attendait pas du tout à être un stit. Il a été journaliste par alchimie entre ce qu'il avait envie d'être et ce que la vie lui a appris. Et puis aussi parce que les enfants lui ont appris et lui ont donné beaucoup de choses. Marc Girard, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que cette petite phrase d'introduction vous correspond ou est-ce que vous auriez envie de rajouter des détails ?
Non, ça me correspond tout à fait. Ce sont des circonstances dans la vie qui ont fait que quand j'étais à Lisieux, j'ai pu côtoyer les journalistes qui travaillaient là-bas et qui m'ont aidé dans ce métier, mais très brièvement, parce que moi, j'étais juste stagiaire pour les vacances. Et eux avaient été instits. Et ils m'avaient proposé de passer le concours de l'école normale et puis de revenir les voir 5-6 ans après, comme eux avaient fait. C'était leur parcours de vie à eux qu'ils me proposaient.
C'était le rédac-chef de l'Éveil de Lisieux pour lequel vous avez travaillé, qui vous a dit ça, ainsi que l'équipe journalistique. Oui. Et du coup, vous avez choisi cette première photo, puisque comme tous les invités de cette émission Portrait, vous avez choisi deux photos, deux objets, deux senteurs et deux musiques que nous allons vous révéler à vous, chers auditeurs, au fur et à mesure de cette émission, qui est une sorte de parcours dans la vie de mon invité, Marc Girard. Vous l'avez compris, hein, il est professeur des écoles. C'est un jeune retraité aujourd'hui. Et revenons maintenant au début de sa carrière avec cette photographie que vous avez faite et qui représente une rue de Lisieux avec des voitures qui se suivent, entourées de la police. Qui est donc dans cette voiture ?
Alors c'est le pape Jean-Paul II qui est venu à Lisieux en 1980. Et c'était assez curieux d'ailleurs parce que c'était une journée assez festive pour nous. En tout cas pour moi, puisque j'ai fait cette photo-là qui est parue à la une du journal. Et j'étais à un endroit très privilégié. C'était un copain de mon père qui m'avait prêté son balcon. Et pour moi, c'était inespéré.
Vous avez une vue plongeante sur tout ce qui se passe. D'ailleurs, vous parlez de votre père, Marc Girard. Vous m'avez dit que cette émission, elle était dédiée à votre père, en tout cas à sa mémoire.
Oui, parce que ce soit mon père ou que ce soit mes grands-mères, ou les gens qui m'ont entouré quand j'étais enfant, mais en tout cas, surtout mon père et mes grands-mères, ils m'ont donné beaucoup de... Ils m'ont appris beaucoup sur le passé. Sur le passé, pas seulement de la famille, mais sur le passé, sur ce qui s'était passé tout au cours du siècle. Et en plus, ils l'ont fait en me donnant une certaine stabilité.
C'est la première senteur que vous avez choisie. C'est la maison de votre grand-mère, de vos grands-mères et de votre grand-tante.
Oui, alors bon, je me souviens particulièrement de ces odeurs-là. J'étais sûr de les retrouver à chaque fois que j'y allais. J'essayais d'y aller assez souvent. Et quand j'étais adolescent, j'y allais plus souvent seul. C'était un moment privilégié avec elle. Et quand je rentrais, je savais que j'allais retrouver cette odeur-là. Et donc aussi ma grand-mère ou ma grande-tante, et qu'elles allaient pouvoir me raconter répondre à mes questions. C'était un moment privilégié.
C'était une vraie stabilité, de l'affection. Et votre père aussi a participé à cette stabilité. C'était quelque chose comme une sorte de pierre d'achoppement pour vous ?
Oui, chacun m'a apporté son témoignage de ce qu'ils avaient vécu. Même s'ils avaient vécu ensemble beaucoup de choses, mes grands-mères avaient vécu les guerres de 14 avec mes grands-pères. D'ailleurs, elles ont fait vivre mes grands-pères dans ma tête, puisque moi, je ne les ai pas connus, mes grands-pères. Donc, c'est marrant de vivre avec... On pourrait appeler ça des fantômes, mais en fait, ce n'est pas des fantômes. Ce sont des gens très, très, très vivants dans la famille. Et donc, elles m'ont appris ça. Elles m'ont appris que la mémoire aide à garder justement... les êtres qui sont partis, mais aussi leurs actions et leur manière d'être avec les autres.
Elles vous ont dit une phrase de nombreuses fois que vous avez bien gardée en mémoire et que vous avez envie de transmettre, et de transmettre aussi aux auditeurs, à vos enfants bien entendu, on va en parler juste après, mais c'est « ne tiens jamais pour acquis ce que tu as, il faut rester en veille, non pas pour soi, mais pour la société ».
Elles étaient très militantes. à leur manière, parce que je pense que personne ne se souvient d'elles. Elles n'ont pas de rue, elles n'ont pas de nom à leur nom. Mais ce n'est pas grave. Elles étaient très actives, et mes grands-pères aussi. Et elles ont participé à tous les combats qu'il y a eu durant cette période-là, de manière à aider les autres, à tous ceux qui étaient autour d'elles, mais aussi à s'aider, à s'entraider mutuellement. Et mon père, il n'a pas été très actif politiquement, mais il avait une philosophie de vie qui consistait aussi à écouter les autres, à aider les autres, et puis avec beaucoup d'humour, à essayer d'apporter, avec un peu de malice, une aide aux autres, quoi.
Il y a eu des hauts, il y a eu des bas avec votre père, puisqu'il avait différents postes. Et que du coup, parfois c'était Byzance, et puis parfois c'était un petit peu les vaches maigres.
Oui, il était directeur d'usine et puis au chômage. Il a été chef de bureau d'études, d'un grand bureau d'études, et puis après de nouveau au chômage. Il a été chef de bureau d'études moyen et puis de nouveau au chômage. Et finalement, ce personnage qui était très drôle hein, dans la vie. Très drôle, très malicieux.
Comme vous.
Ah, je ne sais pas. Mais en tout cas, lui, il tournait tout en dérision. C'était c'est
une
force.
Mais vous avez cette faculté-là aussi. D'ailleurs, c'est ce qui est noté dans le petit carnet que vous avez apporté, et le premier objet que vous avez apporté.
Oui. Il avait cette force-là. Et la vie lui a permis d'être malicieux. Parce que, après tous ces postes-là, responsabilités qu'il avait eues, finalement, il a acheté un magasin de souvenirs à Lisieux.
Lui, un qui magasin était... de souvenirs ?
Oui, de bondieuserie, quoi. Hein. Lui qui n'était pas...
De bondieuserie ?
Oui, lui qui n'était absolument pas catho.
Mon Dieu !
Même plutôt communiste. Il a acheté ça, enfin, ils ont acheté ça en attendant la retraite, tout
vous,
simplement.
Vous alliez, là, les voir ? Vous
oui,
vous
oui, je vivais encore, de... oui, je vivais encore un peu avec eux. Oui, oui. Et donc, tout le monde en rigolait dans la famille, bien sûr. Surtout quand il présentait ses Saintes Thérèses lumineuses la nuit. Enfin, c'était drôle, quoi. C'était... Mais... Il y avait chez mon père, quand même, cette personnalité qui faisait qu'il était copain. Il respectait, par exemple, les religieux, les curés qui amenaient toute la paroisse à Lisieux. Il avait un lien particulier avec ces gens-là. Et c'était très marrant, parce qu'il il offrait des médailles aux curés pour les gens qui venaient acheter d'autres choses. Mais mon père offrait, par exemple, ça. Et le curé... lui disait, oh, je suis content. En fait, entre nous, on peut se le dire, ça n'a pas de grande valeur. C'est pas ça qui va les protéger de quoi que ce soit. Mais pour eux, ça
c'est
avait
une valeur symbolique.
Voilà.
C'était acheté sur place. Et oui. Du coup, il y avait quelque chose qui était chargé émotionnellement.
Voilà. Donc, mon père était quelqu'un de très drôle, mais en même temps, qui arrivait à rentrer en contact avec les autres, même si au départ, il n'avait rien en commun.
Nous allons écouter, Marc Girard, un premier morceau de musique que vous avez choisi. Il s'agit d'un morceau que vous allez nous présenter.
C'est Jean Ferrat. Jean Ferrat a accompagné la vie de mes parents, il a accompagné ma vie, et puis, curieusement, il a accompagné la vie de mon dernier fils, de Valentin aussi.
Enfin, ah, de Valentin, mes enfants. On va l'entendre tout à l'heure. Ça va être la surprise.
De mes enfants, mes trois enfants écoutaient Jean Ferrat aussi, mais Valentin, c'est un peu particulier parce que il a d'abord, mon père est décédé, et 6 mois après, Jean Ferrat est décédé. Et le jour de la mort de Jean Ferrat, Valentin s'est mis à pleurer. Et dans la famille, il y avait des gens qui ne comprenaient pas trop pourquoi. J'ai dit en rigolant qu'on l'avait vu il n'y avait pas tellement longtemps et puis qu'on avait des liens particuliers avec lui. Mais
et
bon.
Voilà, c'est ça votre humour second degré.
Mais la chanson qu'on va entendre peut paraître triste, peut-être morbide, mais en fait non, ce n'est pas ça. Elle est chargée d'espoir. Elle fait le lien avec ce que j'ai dit sur mes grands-mères et mon père. Ces gens-là ne nous quittent pas.
Elle s'intitule « Si nous mourons », c'est une lettre de Ethel Rosenberg que Jean Ferrat a repris pour cette chanson. Justine, Pierre, Paul et Valentin ont écouté Jean Ferrat, on l'écoute plus beaucoup aujourd'hui, et pourtant, on vous laisse écouter, et juste après, eh bien, on va vous raconter la suite.
Vous apprendrez un jour, mes fils, vous apprendrez pourquoi nous reposons sous terre. Le livre à moitié lu, le chant interrompu, et la besogne inachevée. Ne pleurez plus, mes fils, ne pleurez plus. Le monde entier saura le pourquoi du mensonge et de la calomnie, le monde entier saura nos pleurs et notre peine. Joyeux et vert, mes fils, joyeux et vert sera le monde au-dessus de nos tombes. Les tueries cesseront, la terre fleurira dans la paix fraternelle. Travaillez, construisez, mes fils, un monument à l'amour, à la joie, à la valeur humaine et à la foi que nous avons gardée pour vous, mes fils, pour vous.
C'est Marc Gérard qui est notre invité aujourd'hui dans Portrait. Marc Gérard qui est professeur des écoles, ou plutôt qui l'était, parce que c'est un jeune retraité que j'ai devant moi dans ce studio. Un jeune retraité d'ailleurs qui, lorsqu'il a passé le concours de l'école normale, est arrivé devant la liste pour savoir s'il avait été reçu. Il a commencé par le bas et en fait il était sixième sur les 50 qui ont passé le concours. Marc Gérard, vous êtes toujours très modeste. Vous êtes humble et une vraie humilité que je connais, puisque j'ai déjà eu l'occasion de discuter plusieurs fois avec vous et aussi pendant la préparation de cette émission. Qui vous a inculqué cette humilité depuis tout jeune? Évidemment, c'est votre caractère, mais pas seulement.
D'abord, les personnes dont je parlais au début de l'émission.
Vos grands-mères.
Mes grands-mères, et puis mon père aussi. Et puis les circonstances de la vie, parce que quand on est obligé de quitter un endroit où on commence à se faire des amis, de le quitter pour aller vivre 3 ans à Béziers, 3 ans à Lisieux, 3 ans...
Enfin, vous étiez bref, à Sarcelles avant.
Oui, dans la région parisienne. Stains, Sarcelles, Garges. Donc à chaque fois, on crée des liens, on construit quelque chose, et finalement il faut repartir de zéro ailleurs et refaire quelque chose, reconstruire autre chose. On s'aperçoit qu'on n'est pas... On peut ne pas être grand-chose, mais en même temps, le job, j'allais dire. C'est-à-dire, si on s'occupe des autres, si on est curieux, si on écoute, on peut arriver quand même à laisser une petite trace de soi. Mais dans ma nature, je ne me suis jamais trouvé essentiel. Moi, j'aurais été un commerce non essentiel, ça c'est clair, hein.
Et pourtant, vous savez à quel point, excusez-moi de vous interrompre, mais quand vous me dites ça, je ne peux que réagir. Vous savez à quel point les instits marquent la vie des enfants. C'est absolument essentiel pour eux. Vous avez énormément de bienveillance. Vous savez aussi ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas pour que votre classe fonctionne, qu'elle soit sur les rails. Comme Christelle, votre épouse, qui est également instite. D'ailleurs, un couple d'instits, ça parle des enfants tout le temps au repas ou...
Non, pas toujours, sauf que quand il y a quelque chose qui, il y a un problème à résoudre, mais pas au moment des repas,
Repas familiaux, je veux dire.
Oui, non, enfin ça dépend des gens qui sont autour de nous aussi, hein, puisque c'est comme toute profession. C'est la profession de toute façon de n'importe qui. À partir du moment où on la vit réellement et où ça fait partie de notre volonté de faire au mieux, je pense qu'elle prend une importance particulière de toute façon. Dans la vie de n'importe quel professionnel.
J'aurais adoré que ma fille vous ait comme instit, parce que j'ai l'impression que vous inculquez, ou vous avez inculqué, mais j'ai encore envie d'employer le présent, puisque c'est tout récent, hein, cette retraite. Et ce que vous inculquez aux enfants me semble être absolument essentiel. D'abord, le respect entre eux. Évidemment que beaucoup d'instits travaillent de cette façon-là, hein. C'est pas vous en particulier, mais puisque c'est vous qui êtes en face de moi, eh bien, j'ai vraiment envie de mettre ça en exergue. Et puis, vous m'avez parlé de tutorat aussi.
Oui, parce que, alors, quand on est instit, on vit 6 heures de notre journée avec les mêmes élèves, avec les mêmes enfants. On les a en charge pendant toute une année. C'est pas grand-chose dans la vie d'un enfant. Et il faut bien se le dire, on n'est pas grand-chose. L'année d'après, on n'existe plus. Mais n'empêche que, dès le départ, j'ai toujours eu envie de fédérer le groupe que j'avais en face de moi et de faire en sorte qu'ils s'entraident entre eux et qu'ils puissent s'apporter mutuellement des choses différentes. J'ai toujours souffert, moi, quand j'étais petit, dans les classes dans lesquelles on était, de ces histoires de classement. Moi, j'étais...
De compétition, dont parle Albert Jacquard.
Voilà,
quelle horreur, ces compétitions.
Voilà. C'est ça, voilà. Et donc, cet esprit-là, j'en voulais pas dans ma classe.
Et pourtant, vous étiez obligé de les noter, vos élèves.
Alors, j'ai été obligé de les noter. J'ai été directeur à un moment donné à la campagne. J'ai évité de continuer à les noter à ce moment-là.
On a travaillé. Et les parents râlaient.
Non, les parents, il se trouve que les parents, j'avais un contact assez direct avec eux. On se voyait. À partir de là, on peut dire, on peut le laisser par écrit. Tel problème là, tel autre là. La note, elle vient certes à un moment donné précis pour un état des connaissances, mais on peut faire autrement.
Qu'est-ce qui a changé dans toute votre carrière? Qu'est-ce que vous avez pu observer dans le comportement des enfants? Entre les enfants d'aujourd'hui, les enfants d'il y a 20 ans, les enfants d'il y a 40 ans. Comment est-ce que l'apprentissage se fait durant toute cette période-là? Est-ce que les enfants sont plus soumis, moins soumis, plus bougeons, moins bougeons? On dit que les enfants sont hyperactifs aujourd'hui. Est-ce vrai?
Non, ce n'est pas que ça, c'est l'environnement. Nous, quand on était petits, on allait à l'école pour apprendre. Moi, j'avais la chance d'avoir beaucoup de livres à la maison, donc je les lisais, je les consultais. Mais j'avais des copains qui n'avaient pas de livres et qui n'avaient pas accès à la culture, qui ne savaient pas ce que c'était d'aller à la bibliothèque municipale. Et puis, est venue à la télévision cette multiplicité de chaînes, et à ce moment-là, on s'est aperçu qu'on pouvait en faire quelque chose. En dehors de l'école, à l'intérieur de l'école aussi. Et ça m'est arrivé, par exemple, de passer une émission de C'est pas sorcier, parce que je pensais que ça pouvait les intéresser, mais ça nous est tous arrivé, hein, ce truc. Et puis, on a quelques élèves qui... Ah bah oui, je l'ai déjà vu. Bon, très bien.
C'est une chouette émission, C'est pas sorcier.
Alors, c'est une chouette émission, mais il y en a plein d'autres aussi. Et on s'aperçoit qu'en fait, les enfants, ils regardent... Alors, bien sûr, on peut critiquer le fait qu'ils soient devant les écrans, et on pourrait parler de ça après, mais en fait, il y a une multiplicité de choses chez eux, dans leur maison, qui viennent des informations, de par ce biais, de par les médias, que nous, on n'avait pas. Et puis maintenant, il y a Internet, depuis une vingtaine d'années. Mais vraiment, c'est une mine de renseignements pour les enfants.
C'est-à-dire que, en effet, Marc Girard, ce que vous me disiez, qui est absolument essentiel aujourd'hui dans le changement, c'est que l'école n'est plus le seul lieu où ils apprennent quelque chose.
C'est plus le seul lieu, et nous, il me semble qu'il faut qu'on s'adapte à ça et qu'on en tienne compte. Mais il faut aussi apprendre aux enfants. J'avais fait un stage, c'était en 1990, tiens, c'est marrant ça, sur les médias, sur les vidéos, sur les médias, sur la manière de...
Un stage en tant qu'instit.
Oui, un stage en tant qu'instit. Et c'était passionnant parce qu'on apprenait à se servir des médias. On apprenait à apprendre aux enfants à se servir des médias. Voilà.
Avec tous les effets négatifs que ça
mais
peut
bien
avoir.
Bien sûr,
hein.
Y compris par exemple toutes les publicités, lire les publicités, voilà. Ça peut paraître anodin, mais en fait, ça fait partie de leur apprentissage de citoyen. Recevoir une image, savoir avoir un esprit critique. Mais dans tout l'enseignement qu'on a essayé de donner, moi et mes collègues, hein, je suis pas unique, hein, c'est qu'ils aient un regard critique sur ce qu'ils reçoivent, qu'ils ne soient pas seulement récepteurs de quelque chose, mais qu'ils en analysent et qu'ils essayent de comprendre, qu'ils posent des questions, qu'ils soient actifs.
Alors, on va écouter un deuxième morceau de musique que vous avez choisi avec le plus grand soin, puisqu'il a été enregistré tout spécialement pour cette émission par Valentin Girard, qui est votre fils, et qui improvise devant un piano que vous lui avez offert et qui est devenu son piano.
Oui, ça fait partie de mon univers musical, notamment depuis que je suis à la retraite, alors tous les jours, j'y coupe pas.
Oh, vous dites ça comme si c'était une punition, alors que c'est un vrai cadeau qui vous fait
non,
à chaque
fois. Bien sûr, mais en plus, ce sont des musiques très variées. Et là, vous allez entendre quelque chose, mais ça peut être complètement autre chose, plus gai, plus jazzy, plus... À chaque fois, c'est une découverte. Voilà.
On écoute Donc, Valentin Girard au piano. Et puis, juste après, eh bien, nous allons vous parler de cette photo que vous avez apportée. C'est Marc Girard qui est notre invité aujourd'hui dans Portrait. Marc Girard, vous avez choisi ce deuxième morceau de musique que Valentin, votre fils, a improvisé pour vous spécialement sur ce magnifique piano à queue que vous lui avez offert, légué même, je dirais. Vous êtes pianiste, vous aussi.
Oui, mais je le remercie parce que c'est un très très beau cadeau qu'il m'a fait, et puis très facilement en plus. Mais je remercie de toute façon mes enfants, j'en ai 4, et je les remercie notamment d'une chose, c'est qu'ils m'ont dépassé. Ils sont bien plus que ce que je pensais qu'ils pouvaient être. Et ça, c'est émouvant de dire ça.
Oui, c'est pour ça que je ne vais pas vous interrompre, parce que moi aussi je suis émue, alors je fais genre j'assure très très bien, mais en fait, voilà, cette émotion, elle est communicative dans le studio. Vous avez choisi cette photo. Il s'agit d'un monsieur avec un petit garçon. Au-dessus, entre les deux, il y a une affiche au mur, élève de monsieur Girard.
Oui, ce monsieur, c'est Francis Pedu, que certains peut-être ont connu. Il a animé et puis présidé un atelier d'écriture auquel je fais partie. Il est venu dans ma classe à ma demande, mais il avait très envie de venir. Je savais qu'il avait très envie de venir.
Et ce petit garçon qui est à côté de lui?
Et ce petit garçon, Maxime, c'était un petit garçon qui était très particulier, très caractériel, qui battait les autres, qui les mordait, qui avait de gros, gros problèmes personnels. Et les collègues d'avant avaient fait un très gros travail avec lui pour essayer de l'apaiser. Et donc, moi, je l'avais eu avec la même consigne, quoi.
Et quelle est la relation particulière qu'ils avaient tous les deux? Pourquoi avoir choisi cette photo-là?
J'avais dit à Maxime, tu vas voir, il y a un vieux monsieur qui va venir dans la classe et qui est très malade, mais tu vas voir, il va te raconter des choses très importantes. Et l'alchimie s'est faite tout de suite. J'ai eu un enfant très calme pendant toute la séance. Et Francis, il m'a dit, il est merveilleux ce gosse-là. Je dis, oui, il est merveilleux, oui, mais il souffre.
Comment on fait aujourd'hui pour gérer une classe avec 30 mômes? Vous m'avez dit qu'il y avait une façon très drôle. Lorsque vous arriviez en classe, le premier jour de la rentrée, qu'est-ce que vous annonciez aux gosses?
J'aime pas les gosses, je vous préviens.
Donc tout le monde hurlait de rire.
Voilà, je vous préviens, moi j'aime pas les gosses. Mais ça c'est une formule, c'est un truc pour à la fois les détendre et en même temps leur montrer que ça allait se passer comme ça chez moi. Voilà. Et qu'on était ensemble, et qu'il fallait que chacun donne de sa personnalité complètement.
Il y allait avoir donc du second degré.
Oui.
Et c'est comme ça que vous les avez, j'allais dire élevés, mais en fait, non, évidemment, hein, c'est pas vous êtes la chargée de l'instruction et pas de l'éducation. Malgré tout, il y a quand même un apprentissage du savoir-vivre ensemble.
Ah oui, complètement. Et c'est même très, très important en primaire, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on vit ensemble pendant toute la journée. Vivre ensemble, ça veut dire vivre des choses ensemble, au-delà de ce qu'on leur apporte en connaissance.
Et du coup, ils vont pouvoir emmener ça à la maison et pouvoir le transmettre.
S'ils le veulent, parce qu'ils ne sont pas obligés non plus. Je vous dis ça parce qu'on est dans un mouvement, là, il faut montrer aux parents, etc. En fait, la vie de l'enfant lui appartient. Après, il en fait ce qu'il en veut. Mais effectivement, je me débrouillais pour qu'au moins une fois dans la journée, il y ait quelque chose de drôle, mais pas que, mais quelque chose qui fasse qu'ils aient quelque chose à raconter le soir. Autre que du français des maths, hein, mais quelque chose.
Une anecdote sympa.
Une anecdote, une information, quelque chose qu'ils avaient appris, mais qu'ils puissent le raconter à table le soir, s'ils en avaient envie.
Marc Girard, nous allons terminer cette émission sur votre petit jardin secret. Il est... Ne soulevez pas un sourcil comme ça. Vous vous demandez ce que je vais dire? Mais en fait, vous le savez, c'est ce petit carnet que vous avez apporté que, évidemment, j'aurais la décence de ne pas ouvrir. Par contre, vous, il est chargé de notes. Vous écrivez quelque chose dedans tous les jours. Valentin, de l'autre côté de la vitre, soulève les sourcils lui aussi parce qu'il sait très bien que son père écrit tous les jours dans ce petit carnet. D'ailleurs, c'est quelque chose de tout à fait inédit d'avoir à la technique Valentin, mais pas seulement, hein, puisque nous avons aussi Gabriel et Joanne, que je remercie. Et donc, Marc Girard qui va nous lire un petit extrait de ce carnet, puisque ce sont des petites notes pleines d'humour que vous faites là-dedans.
Oui, c'est des petites notes qui n'ont aucune valeur, hein, c'est pas grave, hein, mais moi ça m'amuse. Alors je vous lis une toute petite phrase courte. Mieux vaut être un jeune frappé qu'un vieux fripé. Une autre, mieux vaut être un jeune premier qu'un vieux primé. Voilà.
Merci beaucoup Marc Girard d'avoir été notre invité aujourd'hui dans Portrait et bonne route.
Merci à vous.
C'était Portrait, une émission proposée et animée par Claire-Lise Chaubelet.
Chances are, 'cause I wear a silly grin. The moment you come into view, chances are you think that I'm in love. love.